Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h02 sur Campus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au sommaire ce soir, si vous pensiez que l'industrie textile n'avait pas un lien avec la politique, désolé de vous le dire, mais vous vous trompez. Évidemment, comme toutes les décisions politiques influent sur le secteur décrié pour une consommation excessive de ressources planétaires, Pierre Forestier a créé Gratitude avec son frère. Gratitude, une marque angevine de fringues en lin made in France. On aura aussi le flash info de Victor et la revue presse hebdomadaire d'Eline, journaliste à Angers Ville Actu. Allez, c'est parti, ajustez bien votre gilet de sauvetage, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Salut Victor.
Salut Arthur, salut à tous.
On commence avec une triste nouvelle, plus de 1000 décès de pèlerins à la Mecque durant l'Aïd el-Bekir.
Le plus grand pèlerinage musulman annuel organisé du 14 au 16 juin dans l'ouest de l'Arabie Saoudite s'est déroulé cette année sous une chaleur hors norme de 51 degrés. En juin dernier, l'Arabie Saoudite avait annoncé que ses forces de sécurité avaient refoulé plus de 300 000 pèlerins non enregistrés, une décision qui n'a pas empêché la plupart de participer au rituel dans des conditions épouvantables.
48 heures après son arrivée sur l'antenne d'Europe 1, Cyril Hanouna fait encore des siennes et est déjà visé par l'ARCOM.
Et oui, le régulateur de l'audiovisuel français a rappelé la station afin d'exercer un peu plus de pluralisme et d'honnêteté dans le programme On marche sur la tête présenté par Cyril Hanouna. L'émission qui vise à relater l'actualité électorale a notamment été accusée de sous-exposition du Rassemblement National, des écologistes, du Parti Socialiste et de la France Insoumise.
Il est désormais possible de détecter différents types de cancers grâce à l'intelligence artificielle.
C'est le docteur Sarah Watson qui est à l'origine de cet outil de dépistage. Pour ce faire, elle a conçu au sein de l'Institut Curie à Paris un algorithme à partir de dizaines de milliers de données complexes, une prouesse technique qui a déjà permis à certains patients de tripler leurs chances de survie.
À Angers maintenant, la Fondation des Femmes appelle à manifester contre l'extrême droite ce dimanche.
Le rendez-vous a été donné à 14h sur la place du ralliement ce dimanche. La fondation a affirmé vouloir faire barrage à l'extrême droite, un parti qui a toujours attaqué les droits et les libertés des femmes. Près de 200 associations et syndicats auraient signé leur appel.
Et à tous nos auditeurs dans le Maine-et-Loire, attention à la météo.
Le Maine-et-Loire a été maintenu en vigilance rouge pour crues et inondations selon le bulletin Météo France. À ce gré, des premiers débordements ont déjà été observés dans la journée. A noter que 4 autres départements de l'ouest du pays concernés par cette alerte, parmi eux la Sarthe et la Mayenne.
Et si vous êtes fêtard, la fête de la musique est de retour. Pardon, excusez-moi. Soyez devant vos télés à 21h car ce soir marque le premier gros coup de choc de l'Euro 2024.
L'Espagne affrontera l'Italie, tenant du titre ce soir à Gelsenkirchen, une rencontre qui intervient dans le cadre de la deuxième journée des phases de groupe. S'il y a un vainqueur à l'issue de ce match, l'équipe gagnante aura un ticket assuré pour les huitièmes de finale. Réponse ce soir à 21h sur l'antenne de M6.
Merci beaucoup Victor pour ce flash.
Merci Arthur.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
L'actualité de la semaine à Angers, un partenariat entre Radio Campus Angers et Angers Ville Actu. Bonjour Eline.
Salut Arthur.
Tout de suite, tu nous fais un récap des actus angevines et cette semaine, vous avez suivi 3 mobilisations.
L'intersyndicale CFDT, CGT, UNSA, FSU et Solidaires appelés à se rassembler samedi 15 juin contre l'extrême droite, place du ralliement à Angers. Malgré une météo maussade, ils étaient environ 3000 à être présents en fin de matinée dans l'hypercentre d'Angers. Dans la même journée, plus de 400 personnes ont également manifesté contre la présence des Blancs de l'Ouest, alors que les Halles Cœur de Maine fêtaient leur premier anniversaire. Ce rassemblement répondait à l'appel de nombreux syndicats, organisations et associations angevines, comme le NPA, Solidaire 49, le Planning Familial 49 ou encore le FSU. L'intersyndicale du Maine-et-Loire s'est également mobilisée lundi 17 juin contre la réforme de l'assurance chômage. Pendant près de 30 minutes, plusieurs représentants de syndicats ont été reçus à la préfecture de Maine-et-Loire pour demander un retrait des décrets. Plus d'une cinquantaine de sympathisants étaient également rassemblés, place Michel Debré.
Et en réaction aux manifestations de samedi dernier, des militants identitaires ont provoqué des violences au Héron Carré.
Vers 21h30, des identitaires angevins, pour certains armés et masqués, s'en sont pris à des personnes qui écoutaient un concert de rap au Héron Carré. Les forces de l'ordre sont intervenues pour ramener le calme et un homme a été interpellé pour des faits qui ne seraient pas liés directement aux violences. Sur le réseau social X, ex-Twitter, le réseau Angevin antifasciste a dénoncé la présence de militants d'ultra-droite, dont des membres de l'Alvarium, une association identitaire aujourd'hui dissoute. Sur les réseaux sociaux, les gérants du Héron Carré ont déclaré être peinés et très en colère et ont indiqué avoir déposé plainte. Le maire d'Angers, Jean-Marc Vercher, a également réagi, indiquant apporter son soutien aux exploitants et n'avoir aucune tolérance vis-à-vis de la violence.
Pour l'Observatoire départemental du tourisme de l'Anjou, le début de l'année est plutôt mitigé.
Malgré un calendrier plus favorable au tourisme, la météo capricieuse et les intempéries à répétition ont gâché le début de la saison pour les professionnels du tourisme. De janvier à mai, 4,4 millions de nuitées ont été comptabilisées dans le département, soit un chiffre stable par rapport à 2023, malgré une baisse de nuitées étrangères au printemps. Les cyclistes ont quant à eux déserté les itinéraires vélos à cause des intempéries, soit moins 30% de passages sur la Loire à vélo. La météo a également eu un impact pour les campings, avec 65% d'entre eux qui indiquent avoir une activité moindre que prévue en avril et mai.
Le syndicat mixte des Basses-Vallées Angevines et de la Rome invite les Angevins à envoyer des photos et vidéos commémorant la crue historique de 1995.
En janvier 1995, la Maine avait atteint un niveau de 6,69 mètres au pont de Verdun, à Angers, plongeant la région dans une situation d'urgence. Les habitants, pompiers et agents municipaux avaient mis en place diverses mesures pour protéger les biens et les personnes. Pour commémorer les 30 ans de l'événement, le syndicat souhaite recueillir des témoignages et tout document visuel permettant de préserver la mémoire collective et de sensibiliser aux risques liés aux inondations. Les habitants disposant de photos ou de vidéos sont invités à les envoyer par mail à contact@smbvar.fr avant le 12 juillet. Ceux possédant des documents non numérisés peuvent également contacter le syndicat à cette adresse pour organiser leur transmission.
Et un bar du centre-ville d'Angers a été fermé pour des raisons de sécurité.
La préfecture de Maine-et-Loire a décidé avec la ville d'Angers, après un contrôle inopiné, une fermeture administrative du bar Levé, situé à l'angle des rues du Mail et Cornet. L'établissement était accusé par le voisinage de tapage nocturne et bagarres régulières. La préfecture explique avoir relevé de nombreux et graves manquements à la réglementation en matière de sécurité des établissements recevant du public et de sécurité incendie. Le V était déjà visé par deux avis défavorables de la commission intercommunale d'Angers-Loire Métropole en septembre 2023 et mars 2024.
Et c'est là qu'on en parle. Pour rappel, la fête de la musique est de retour à Angers ce vendredi 21 juin.
Jusqu'à minuit, musiciens professionnels ou amateurs, seuls ou en groupe, s'installeront dans les rues du centre-ville pour faire danser les Angevins. De 18h30 à 21h30, les chorales du territoire se réunissent place du ralliement pour une présentation de leur répertoire, suivie d'un temps participatif et collectif, invitant chacun à joindre sa voix pour un final festif. La circulation et le stationnement seront fermés dans le centre-ville, dans un périmètre délimité par le boulevard Carnot, le boulevard du Roi René et le boulevard Foch. Il y aura également une fermeture de 19h à minuit du pont de Verdun, du quai des Carmes et de la rue Beaurepaire. Sur la ligne A du tramway, la station ralliement sera fermée à partir de 18h30.
Également demain soir, Louis Bertignac donnera le coup d'envoi du festival de Trélazé.
Le festival gratuit s'ouvrira avec le cofondateur du groupe de rock français Téléphone pour célébrer la fête de la musique. Le chanteur rejouera sur la scène trélazéenne ses plus grands classiques, mais également des morceaux de son dernier album intitulé « Dans le film de ma vie ». Le concert débutera à 21h au Parc du Vissoir.
Merci beaucoup Éline pour ce flash d'actualité angevine. On se laisse avec une petite pause musicale, Citadelle de Merveille sur l'antenne de Radio Campus.
Gabriel, call me back. C'est officiel, toujours la même.
Je balade dans ma citadelle, mais ma vie n'est toujours pas belle. Balade citadelle, je serai beau que quand l'argent m'appelle. Problème dans ma tête, les premiers à dire que j'ai géré dans ce qu'ils m'ont négligé. Dans ce qu'ils parce qu'ils m'ont négligé. Parce qu'ils m'ont négligé. J'ai parlé sur mon bando. Et si j'ai ma mémoire au dos, j'essaie de faire comme les autres. Mais la nuit, je peux pas dodo. Problème dans ma tête, y'en a beaucoup, ils m'en veulent. Problème dans ma tête, y'en a beaucoup, ils m'en veulent. J't'emballe ta tarala, j't'emballe ta tarala. Donne-lui mon cœur, j'peux pas, j't'emballe ta tarala. Mon fils avec, même si ça fait mal, tous les jours j'demande à Dieu. D'avancer tout droit, oh là là là. On fait avec, hein. On fait avec, hein. Trop de problèmes dans ma tête, j'sais même pas qu'est-ce que j'peux faire. Y'en a beaucoup, ils m'en veulent, mais c'est même pas ce que j'dois faire. Problème dans ma tête, j'sais même plus qu'est-ce que j'dois faire. Y'en a beaucoup, ils m'en veulent, mais c'est même plus ce que j'dois faire.
Pédalo sur Radio Campus Angers.
Vous êtes toujours à bord du Pédalo, on vient d'écouter le titre Citadelle de la chanteuse Merveille. Je vous pose la question à vous, est-ce que vous saviez que l'industrie du textile était liée à la politique française ?
Personnellement, non, je ne savais pas.
Eh bien, figure-toi que l'un influe sur l'autre. On écoute tout de suite notre entretien avec Pierre Forestier, directeur d'un magasin de vêtements Made in France. Donc, bonjour Pierre, vous êtes l'un des directeurs de la marque Gratitude, donc une marque de vêtements 100% lin Made in France. Et donc, en tant qu'entreprise fabriquant des produits Made in France, vous dépendez de la situation politique en France, par notamment le ministère des Finances, le ministre de l'Industrie et du Commerce. Et vu le contexte actuel, si l'extrême droite était menée à arriver au pouvoir, est-ce que vous serez amené à changer quelque chose pour votre entreprise ?
Alors c'est une bonne question, effectivement, qui préoccupe beaucoup de personnes à l'échelle à la fois professionnelle et personnelle. Je vous avoue que sur l'échelle de Gratitude, on a beaucoup d'enjeux, y compris politiques. Notre enjeu numéro un, c'est de trouver et de proposer une alternative à la fast fashion. Et en fait, comment ça se traduit concrètement en tant que jeune marque angevine ? C'est par la proposition, en gros, d'une alternative qui va être plus locale, plus éthique. Et donc, on va avoir des enjeux économiques. Là où le lien se fait avec votre question et le contexte politique, c'est que notamment face à nos concurrents qui peuvent être des enseignes de fast fashion, des enseignes plus ou moins éthiques, on va avoir des enjeux, nous, de rentabilité et on va pas être jugé au même niveau. Je m'explique. Une marque qui va importer des vêtements de Chine et les vendre en France va être taxée au même titre que Gratitude, une petite marque angevine. Et donc, c'est plus à ce niveau-là que nous, on essaye de se battre à l'échelle professionnelle, du moins pour faire avancer les choses.
Et donc, tu parlais de fast fashion. Il y a un député des Républicains, donc Antoine Vermorel-Marc, qui a exprimé « L'ennemi du Made in France, c'est la fast fashion. Si on ne fait rien, on va mettre nos emplois dans l'industrie à nu. » Et il y a aussi un texte de loi visant à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile, qui a été adopté le 7 mars 2024 par l'Assemblée nationale. Est-ce que pour toi, il y a assez de choses qui sont mises en place par l'État ou par le gouvernement pour aider dans votre lutte contre la fast fashion ?
Alors, à mon avis, pour répondre à ta question très concrètement, assez non. Mais ce qui est positif, c'est que les choses évoluent. Et ce qu'il faut retenir, c'est quand même que les choses sont en train de bouger. Donc, lentement, mais elles sont en train de bouger, à l'image du slip français qui est convoqué à l'Assemblée de temps en temps pour parler justement de ces difficultés, pour évoquer les difficultés que eux évoquent auprès de leur communauté. Mais c'est déjà un grand pas en avant que d'être écouté par l'État. Ensuite, après, c'est qu'une échelle de temps, est-ce que c'est assez rapide ou non? Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même positif et que les choses avancent.
Et pour votre marque, donc Gratitude, on le rappelle, est-ce qu'il vous arrive de vous restreindre à faire certaines choses par rapport à vos convictions? Bah, est-ce qu'il y a des limites que vous refusez de franchir ou...
Oui, bien sûr, évidemment, et ça depuis le début du projet, en fait, à compter de la création de la chaîne de production. Au début, il faut se poser des questions quand on monte une marque. C'est est-ce que je produis en France? Est-ce que je produis à l'étranger? Est-ce que j'approvisionne ma matière? Donc nous, en l'occurrence, c'est le lin. Mais est-ce qu'on prend du lin qui vient, je sais pas, des Pays-Bas, de Belgique ou du lin 100% français? Et tout ça, en fait, ça a un impact notamment sur le coût et sur les valeurs qu'on veut donner sur notre projet. Donc oui, évidemment, nous, dès le début du projet, on s'est fixé plusieurs objectifs, notamment de produire local, d'irriguer en fait l'économie française et les emplois qui sont autour de nous. Et donc ça, c'est un petit peu notre fer de lance depuis le début. C'est une des valeurs sur lesquelles on est intransigeant dans toutes nos décisions. Ouais.
Parce que justement, j'avais aussi une question donc pour les pays étrangers. Dans un article de West France paru début juin, donc on peut lire que vous avez dû vous rabattre en urgence sur un fournisseur italien. Vous disiez que la France est le plus gros producteur de lin sur la planète, c'est un peu absurde. Est-ce que, enfin, comment ça se fait en fait que vous êtes allé chercher du lin d'Italie alors que c'est le plus gros producteur de la France?
Ouais, alors le lin ne vient pas d'Italie. Le fournisseur italien, c'est le fournisseur de tissus. En l'occurrence, la majorité du lin en fait qui pousse dans le monde entier, il va pousser en France, Pays-Bas, Belgique, donc sur le bassin nordique. Donc ça pourra pas changer en fait, c'est juste lié au territoire. En revanche, nous on a décidé en fait d'utiliser du lin que l'on va revaloriser en fait. C'est des grandes maisons de luxe qui n'utilisent pas des fins de rouleaux de tissu, type 200, 300 mètres, qui sont destinés à être jetés en fait. Du coup, nous, on arrive avec notre atelier, on décide de les revaloriser, c'est-à-dire de les récupérer et de les acheter à un prix légèrement inférieur au prix du marché, et du coup, de les reproposer dans nos collections. Donc ça, c'est un double enjeu, de réutiliser une matière qui va être jetée et de proposer une matière de très bonne qualité toujours. L'idée, en fait, de faire ça, c'est à la fois, justement, comme je vous disais, de réutiliser une matière qui existe déjà et de ne pas reproduire une nouvelle matière, et ensuite d'optimiser nos coûts de production aussi. Parce que pour le petit point histoire, moi je me suis lancé à temps plein sur Gratitude en septembre dernier, et en fait en creusant un petit peu l'industrie, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la santé en fait du secteur du textile, notamment en parlant à mes confrères Marc, avec qui je m'entends très bien, mais aussi en voyant nos ateliers de production, par exemple, qui étaient tombés en liquidation judiciaire pour certains. Et du coup, en creusant en fait ce secteur, etc., en étudiant nos marges, il a fallu qu'on se réorganise, et cette réorganisation est passée notamment par l'utilisation d'un tissu revalorisé.
Donc tu disais que c'était tout récent, du coup t'as, enfin que c'était début septembre, t'as, comment je pourrais dire,
Où je me suis lancé à 100% sur le projet, oui.
ouais c'est ça. Mais enfin en fait comment ça s'est concrétisé ce projet-là?
Alors, au tout début, nous, on a lancé le projet. Donc, quand je dis nous, c'est mon frère et moi-même, il y a 4 ans, donc en parallèle de nos études, avec pour but de se rassembler autour d'un projet qui pouvait nous unir autour de nos valeurs. Donc, produire en France, faire quelque chose qui avait un impact sur la planète et sur les hommes, dans une échelle locale. Donc c'est comme ça que ça a vu le jour au tout début. Donc ça a toujours été un projet qu'on a mené en parallèle de nos études. Et puis quand on n'était plus étudiant, moi je me suis lancé à 100% dans l'aventure.
Ok. Dans le même article de West France, on a parlé tout à l'heure. Donc je vous lis un extrait de l'article, hein. Gratitude n'est pas parvenue à encaisser l'augmentation facturée par l'atelier qui confectionnait ses chemises près de Tours. Et vous disiez, on ne fait plus que 10% de 10 euros, pardon, de marge sur les chemises à 140 euros. Comment ça se fait? Enfin, pourquoi ça coûte de plus en plus cher de travailler avec cet atelier?
Oui, bien sûr. Alors, dans l'idée, ça relève en fait de la problématique. Les chiffres, ils sont peu représentatifs. Là, 10 euros, je pense que la journaliste a voulu illustrer un petit peu le choc que ça représentait. Mais l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, en septembre, on a eu une augmentation simplement du coût de production en fait, de notre atelier à Tours. Celui-ci a augmenté le prix de confection de nos chemises de l'ordre de 10 à 20 euros par unité. Et ça, c'est sans le tissu. Et donc nous, en fait, il a tout simplement fallu faire un pivot, c'est-à-dire de changer d'atelier, trouver un atelier qui correspondait plus sur nos objectifs de marge, pour tout simplement éviter de vendre une chemise à 300-400 euros pour qu'on puisse s'y retrouver.
Et est-ce que la relocalisation des entreprises textiles, est-ce que c'est une bonne chose pour la France et est-ce qu'il y a des risques financiers pour les entreprises?
Oui, c'est évidemment une bonne chose, la relocalisation. Il faut savoir que ce soit sur l'industrie du textile ou l'industrie du lin en France en général, on a perdu énormément d'emplois depuis les années 80. Donc réindustrialiser en France ne peut que être une bonne chose de par la réindustrialisation des savoir-faire, de par la dynamisation du tissu économique local, de par plein de facteurs différents. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est que là, sur ces 40 dernières années, dans l'industrie du textile, il y a 40 ans, il y avait plus d'1 million d'emplois. Et aujourd'hui, pour illustrer un petit peu cette fracture, il n'y a plus que 100 000 emplois aujourd'hui. Donc oui, ça peut que avoir du bon de réindustrialiser en France, et on peut le constater notamment par les subventions aussi menées par l'État de plus en plus.
Pour vous, comment vous expliquez cette baisse?
Je pense pas avoir une réponse universelle dessus, mais des pistes de réflexion en ayant parlé à des confrères industriels, notamment sur tout simplement le fait que la main-d'œuvre est moins chère ailleurs. Quand vous regardez en fait les pays de provenance des tissus en lin, hormis la filature, donc en gros le lin pousse en France par exemple, ensuite il est envoyé en Chine pour être transformé en fil, donc l'étape de la filature, ou alors dans les pays de l'Est, type Pologne, il est transformé en fil à ce moment-là, confectionné en vêtements dans ces mêmes pays et il va être réapatrié en France pour être vendu. Donc c'est ça, un petit peu la raison principale, à mon avis, c'est simplement une raison monétaire, mais qui a engendré beaucoup, beaucoup de problématiques derrière. C'est que maintenant, on a du mal à réindustrialiser. Maintenant, pour former de la main-d'œuvre dans nos filatures qu'on réimplante en France, il faut faire venir de la main-d'œuvre polonaise, par exemple.
Et comment ça s'est passé dans votre cas de faire votre entreprise de textile made in France? Est-ce qu'il y a eu des difficultés à la faire? Est-ce que...
Alors ouais, bien sûr, on a plein de difficultés, ça dépend sur quel point, mais c'est ce qui fait le charme aussi de l'aventure, du Made in France et de faire quelque chose de local. Ça dépend à quelle échelle vous voyez le niveau de difficulté. Est-ce que c'est sur les emplois? Parce que nous, en tant que marque, on assemble des usines de production, mais on n'a pas d'usine à proprement parler. Donc la gestion du personnel, les difficultés, etc., vont être différentes également.
Bah, c'était surtout de voir à l'aspect financier. Est-ce qu'aujourd'hui ça devient rentable? Parce que j'imagine que ça coûte beaucoup beaucoup d'argent.
Ça a un certain prix, mais après c'est qu'une question d'organisation à mon avis. Comme je vous disais, nous on est passé, enfin je suis passé à 100% en septembre. Il y a eu beaucoup de mois de réorganisation où il a fallu retrouver des ateliers, etc. Et donc là, depuis 3-4 mois, on est en train de sortir une nouvelle collection du coup de vêtements en lin, entre chemises, shorts et pantalons en lin, dont on commence à voir le jour. Là justement, depuis 3-4 mois, on fait nos meilleurs mois depuis le début de l'aventure de gratitude, où on fait en fait une précommande toutes les 2 semaines sur notre site ou sur des plateformes comme Ulule tout simplement. Et donc pour répondre à ta question de est-ce que c'est rentable, viable, etc., oui, ça l'est beaucoup plus maintenant et on commence à pouvoir se rémunérer et trouver notre compte.
Bah, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais vous êtes aussi considéré comme marque de vêtements éthique. Est-ce que pour vous, la France, elle doit faire des efforts par rapport à la fast fashion, au dumping social, le fait d'employer des travailleurs étrangers à un salaire plus bas que celui qui se pratique habituellement dans le pays où se situe l'entreprise?
Alors, il y a déjà des pistes un petit peu de réflexion qui ont été menées par des marques, des associations, du type la TVA verte. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais tu as des marques, des collectifs de marques qui proposaient peut-être d'appliquer une TVA verte, du coup en faveur de ces entreprises-là, éthiques, qui s'élèverait à 5,5% au lieu de 20%, par exemple, au même titre qu'une entreprise qui importe des produits de Chine ou d'ailleurs, tout simplement. Du coup, il y a plusieurs idées qui vont dans ce sens-là, et évidemment, je serai pour. Après, en l'état, quand est-ce que ce sera mis en place? Ça, c'est une autre question que je maîtrise un petit peu moins.
Et pour revenir aussi à la politique française, question un peu plus drôle entre guillemets, pour vous, quelles sont les idées politiques de vos clients réguliers?
Les idées politiques de nos clients réguliers? J'ai pas envie de me prononcer du tout à leur place, mais de ce que nous on a ressenti avec mon frère depuis ces 4 années, c'est des clients en priorité engagés pour le Made in France et pour le fait de remettre du sens en fait dans cette industrie en général. Donc tout simplement, le fait de produire du lait en France, de l'exporter en Chine et de le ramener en France, c'est une hérésie totale. Et nos clients en fait, c'est face à ce genre de messages qu'ils sont sensibles, et c'est grâce à ce genre de messages qu'ils soutiennent le projet. Et donc on a une communauté hyper engagée, hyper soutenante envers le projet depuis le début. Et pour ça, on a une grande, grande chance parce qu'on se sent hyper soutenu depuis 4 ans avec mon frère. À chaque petite difficulté, en fait, nous, on a à cœur d'avoir une transparence totale avec notre communauté et on reçoit énormément de messages de soutien, des recommandations, des avis pour modifier les produits de temps en temps. Donc pour ce fait-là, on a beaucoup, beaucoup de chance. Si ce n'est exposer leur opinion politique, dont je ne sais pas forcément, ce serait plus
Oui, c'est ça.
la solidarité, l'entraide et le fait de remettre du sens un petit peu dans l'industrie française.
Et comment vous faites pour vous démarquer, par exemple, à la Chine qui exporte du lin,
Bah, y a une démarcation par la transparence déjà où nous, on a à cœur d'être transparent à 100% sur nos produits, l'origine, etc. Quand vous allez sur un site type Chine, Temu, il y a moins de traçabilité. Et donc nous, on se démarquerait comme ça dans un premier temps et surtout en faisant les choses bien. Après, le moyen de communication va être la transparence, va être d'éclairer et de mettre sous les yeux des Français nos modes de fonctionnement. Mais à mon avis, notre premier moyen de démarcation est de faire les choses dans le bon sens. Et faire les choses dans le bon sens, ça revient à les faire près de chez nous, plutôt que d'aller produire en Chine, revenir ici, etc. Donc ça serait ça, je pense, notre principal moyen de démarcation aujourd'hui, si ce n'est de produire en France, d'utiliser une matière locale et de qualité. Donc nous, on va prendre des vêtements certes éthiques, certes en lin produit en France, mais surtout qui vont durer dans le temps.
Et pour un autre article de Ouest France paru en 2021, vous disiez qu'entre teinture chimique, travailleurs sous-exploités au bout du monde et savoir-faire délocalisé, il y a beaucoup de travail pour rectifier le tir. Pour vous, donc qui travaillez dans cette industrie, quelle est la meilleure façon de rectifier le tir à l'échelle nationale? Parce qu'on a parlé des taxes, des projets de loi, mais pour vous, qu'est-ce que serait la meilleure façon?
À notre échelle, pour moi, semble, mais ce qui se passe, on l'a vu sur les événements de Rana Plaza, les productions au Bangladesh, etc. Nous, à notre échelle, avec Jean, et ce qu'on fait depuis le début de Gratitude, ou du moins ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer une alternative. Donc, tout simplement, pour nous, le meilleur moyen de lutter contre ces conditions de travail, etc., c'est de proposer une alternative viable. Donc, avec des conditions de travail en France, avec un salaire décent, et sans teinture chimique, avec une production respectueuse de l'environnement, etc., etc.
Eh bien, je vous remercie, Pierre, d'avoir accepté cette interview pour Radio Campus. Est-ce que vous avez un mot de la fin, entre guillemets?
Mais merci à vous, avec grand plaisir et toujours au plaisir d'évoquer les aléas du Made in France et la belle aventure que ça peut être aussi.
On reprend l'antenne. D'ailleurs, Gratitude a lancé récemment une précommande de chemises en lin sur la plateforme Ulule jusqu'au 5 juillet. L'idée de cette précommande est de leur permettre de financer leur production. Donc si vous êtes en rade de chemise, sautez sur l'affaire. Le pédalo termine sa traversée sur Radio Campus. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et à très bientôt sur le 103 FM. Et n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.